Mémoire d'un continent.
Elikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
De Lumumba à Mobutu, la marche vers la dictature au Congo. L'histoire contemporaine, comme on dit, est une discipline extrêmement difficile. Certains préfèrent parler d'ailleurs de sciences politiques plutôt que d'histoire contemporaine, même si les deux disciplines ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Les difficultés tiennent à plusieurs choses. Il faut d'abord reconstruire les événements. Il ne s'agit pas seulement de dire telle chose s'est passée à telle date. Il faut entrer dans le détail de l'événement, de son déroulement, de savoir d'où est venue l'initiative, qui étaient exactement les acteurs, comment ça s'est déroulé, quelles étaient les connexions à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'un espace politique donné. Et la reconstitution de ce passé est quelque chose de très, très, très difficile, puisque bien sûr, beaucoup de témoins sont encore vivants, les sources sont très, très nombreuses, la presse, les rapports divers, les textes de certains nombres d'acteurs, les rapports des services secrets, les correspondances entre les gouvernements. Et donc, c'est une histoire dont l'ambition est grande, introduire de la clarté, introduire les éléments de continuité et de rupture dans un flot d'événements souvent difficiles à interpréter. Il y a peu de pays en Afrique, peut-être dans le monde, qui connaissent une histoire politique aussi tourmentée, aussi troublée, aussi surprenante avec ce rebondissement que l'actuelle République démocratique du Congo, qui s'est appelée autrefois le Congo, qui s'est appelée ensuite le Zaïre, la République démocratique du Congo, et qui est redevenue aujourd'hui la République démocratique du Congo. Un chercheur travaille depuis plusieurs années sur l'histoire politique de ce pays, avec l'ambition de démystifier ce qui reste encore de mythologie, avec le souci d'aller aux sources premières, à la matière première de l'histoire, et aussi avec le souci de provoquer ce qu'il y a à provoquer comme réaction, comme réparation s'il le faut. Il est évidemment au micro de Mémoire d'un continent. Bonjour Ludo De Witt.
Bonjour.
Vous avez écrit déjà plusieurs travaux sur le Congo, notamment un livre très remarqué, L'assassinat de Lumumba, livre dans lequel vous avez montré qui étaient les responsables dans cet assassinat, qu'il ne s'agit pas d'une bavure, comme on dit, qu'il ne s'agit pas non plus d'une affaire purement congolaise, qu'il y a évidemment des interventions extérieures, notamment l'intervention de la Belgique, ou disons du pouvoir d'État belge, l'ancien pays colonisateur. Ce livre n'a pas été seulement un travail scientifique d'excellent niveau, il a eu des effets. L'un des effets étant, je crois, pour la première fois ou l'une des premières fois dans l'histoire des anciens pays colonisateurs, où le pouvoir a dû s'expliquer, appeler une commission dite indépendante, mais enfin qui a fait son boulot pour clarifier les responsabilités individuelles, collectives, je veux dire, responsabilités de l'État belge dans cet assassinat qui a été un mouvement, qui a été un phénomène majeur dans l'histoire des indépendances africaines et qui a été aussi, comment dire, une cassure durable avec de nombreux effets sur l'histoire du Congo. Alors, vous revenez aujourd'hui à la charge avec un livre que je trouve très, très important. Un livre d'ailleurs, on retrouve toutes vos qualités, le pointillisme dans la recherche, la fixation des événements, la fixation des individus et de leur rôle, sous le titre « L'ascension de Mobutu ». Comment la Belgique et les USA ont installé une dictature. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais que vous expliquiez, c'est est-ce qu'il y a une continuité entre le livre sur l'assassinat de Lumumba et celui-ci? Autrement dit, est-ce que vous êtes engagé dans un processus d'écriture d'un livre d'histoire contemporaine qui démonte à la fois la formation des nouveaux États dits indépendants et qui montre aussi les effets des interventions des anciennes puissances coloniales et des puissances dominantes du monde occidental et d'ailleurs.
Oui, effectivement, l'ascension de Mobutu est en fait le complément de mon assassinat de Lumumba. Pourquoi ? Parce que quand on dit assassinat de Lumumba, on dit presque inévitablement, ça veut dire l'ascension de Mobutu. Pourquoi ? Il faut savoir que l'élite belge, qui a donc colonisé le Congo, était une élite petite, jeune, mal expérimentée, divisée, hésitante, et c'est une élite qui n'avait pas vraiment l'audace de préparer les peuples congolais à cette indépendance. Et donc, l'élite belge a toujours cru, même au courant des années 50, qu'on pouvait continuer à coloniser pour un long temps, bien qu'il était tout à fait clair qu'à travers la Deuxième Guerre mondiale, tous les empires coloniaux étaient en train de craquer et qu'il y avait donc de plus en plus de mouvements pro-indépendantistes. Donc, pas préparer l'indépendance, et l'aphorisme qui a été utilisé et qui était populaire était « pas d'élite, pas d'ennui », ça veut dire que donc qu'il n'y avait pas une force nationale, une élite nationale noire, capable de reprendre les rênes du pouvoir dès qu'il y avait cette indépendance congolaise.
Contrairement à ce qui s'est passé au Ghana, dans l'Afrique française, etc.
Oui, exact. Et il y a notamment le roi Baudouin, le roi belge, qui a été très perspicace, enfin au moins il était très jeune, donc c'est son entourage qui était très perspicace et qui disait quelques mois avant l'indépendance, des forces tumultueuses se sont mises en branle sans que des élites sages et expérimentées fussent présentes en nombre suffisant pour les encadrer et les diriger. Et donc, ça a été le problème. Et donc, quand, après l'indépendance, la Belgique, en collaboration avec les États-Unis et avec les dirigeants des Nations Unies, parce que il y avait donc une intervention avec des casques bleus au Congo, ont décidé de décapiter ce mouvement nationaliste, alors, par ce fait, on élimine donc l'unique force civile qui était capable de diriger ce pays. Cette petite couche de dirigeants nationalistes qui s'était forgée à travers la lutte anticoloniale. Et donc, à ce moment, il n'y avait aucune alternative civile disponible justement pour prendre les rênes du pouvoir et donc pour contrôler, diriger, encadrer ce pays grand comme l'Europe de l'Ouest. Et donc, nécessairement, la seule alternative qui était disponible, c'était l'armée. Et donc, ça a donc finalement abouti en 65 à une dictature militaire ouverte.
Alors là, le processus a commencé par l'élimination politique d'abord et puis l'élimination physique de Patrice Lumumba. Vous parliez des élites, disons, reprenons ce mot. Vous consacrez des passages à ce qu'on appelait, on en appelait le groupe de Binza et que vous appelez les Binza Boys. Alors qui était-ce ? Est-ce que ça n'était pas une sorte d'élite de substitution qui aurait pu gérer le pays pendant quelque temps, le temps qu'il y ait des cadres politiques, économiques suffisamment nombreux.
Je crois que les Binza Boys, c'était un groupe extrêmement petit, extrêmement maigre, qui dépendait fortement de l'Occident. Il s'agit de gens comme Justin Bomboko, qui était ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Lumumba et qui l'a trahi. Et qui a donc pris fait et cause pour cette intervention occidentale. Il avait aussi le chef de l'armée, Joseph Mobutu. Joseph Mobutu, qui en fait était, dans les mots d'un des dirigeants des Nations Unies, l'homme fort, le plus faible que j'ai jamais rencontré. Et donc, Mobutu, en fait, il était le chef de l'armée, une armée qui était complètement sapée par le travail de corruption, la destruction des unités combatives qui étaient qualitativement bonnes, mais qui étaient pro-nationalistes, notamment au Katanga, avec des officiers qui ont été achetés pour prendre fait et cause contre Lumumba. Et donc, c'était une armée extrêmement non fiable. Et le seul vraiment force sur lequel Mobutu pouvait compter, c'était plus ou moins les 1000 commandos qui étaient entraînés par Israël et qui étaient très bien payés, notamment avec l'argent de la Belgique et des États-Unis. Mais En somme, ce groupe, le groupe de Binza, et donc ce nouveau régime qui a pris la place du gouvernement Lumumba, c'était un régime qui a été caractérisé par, dans un document de la CIA comme de la mousse espagnole. C'est-à-dire comme quelque chose qui a ses racines dans l'air. C'est donc un régime qui n'avait pas vraiment des racines dans la population dont le pouvoir ne va pas plus loin que les limites de la capitale congolaise. Et donc, c'est justement ça qui provoque une situation extrêmement contradictoire, explosive. D'un côté, un régime pro-occidental qui est faible. L'Occident croit que le problème est résolu. Dès qu'on avait remplacé le gouvernement Lumumba avec ce régime qui était officiellement dirigé par le président Kasavubu et le premier ministre Adula, mais vis-à-vis de cet régime extrêmement faible, il y a donc toujours ces masses congolaises dont on a décapité la direction, mais qui, au fond d'eux-mêmes, continuent à aspirer à une indépendance réelle, à finir la situation des barrières racistes qui existent dans l'administration, qui existent dans les usines, qui veulent vraiment que les richesses minières du pays soient récupérées par le pays elle-même et donc la souveraineté sera reconstituée. Et donc c'est ce conflit qui va donc aboutir à des éruptions d'une violence, des rébellions, des protestations, des jacquerie même de la part d'une population qui est mal dirigée, mais qui va quand même mettre en grand danger ce régime dans la capitale.
Alors du coup, ça veut dire que à peine Lumumba est éliminé, donc en janvier 1961, le pouvoir est un pouvoir chancelant qui contrôle quoi peut-être la ville de Kinshasa, le reste du pays et on ne sait pas trop ce qui s'y passe. L'économie dans beaucoup de secteurs est dans une situation de délabrement. L'ancienne puissance coloniale, la Belgique, elle est présente là-dedans aussi dans la presse congolaise, on parlait beaucoup, je sais pas, de Paul-Henri Spaak, de quelques autres personnalités. Quel est le calcul de ce pouvoir colonial, le calcul des entreprises coloniales, qui ne sont pas seulement belges, hein, il y en a d'autres encore. Comment construire le néocolonialisme, comme on disait, dans ces conditions?
Ben, il faut savoir que les grandes usines, donc les grandes usines coloniaux, étaient en général organisées d'une façon autarctique. Donc il n'y avait pas vraiment une relation avec l'environnement ambiante, la population congolaise, et donc tout était axé à l'export, donc à l'exportation des richesses vers le marché mondial. Et ce système a continué à travers la crise congolaise. Donc 60, 61, 62, avec toutes ces interventions militaires de la Belgique, des casques bleus, le désordre général. L'union minière, par exemple, hein, qui était donc en quelque sorte le joyau à la couronne de la Belgique, a continué à produire toutes les richesses minières comme avant. Donc, à fur et à mesure que le temps passe pendant ces années, la Belgique a espéré que, en fait, la situation allait se stabiliser. Mais ça, c'est pas produit parce que, en fait, cette armée qui était un peu éparpillée, un peu partout dans le pays, qui était mal payé, qui était donc payé notamment par en utilisant le bâton, en utilisant donc les armes. Il y a les exactions qu'on a fait chez la population. Il y a eu des mutineries un peu dans la moitié des différentes unités quand on lit les rapports faits par l'attaché militaire belge, par exemple. C'est incroyable que la situation terrible dans laquelle se trouve cette armée. Et donc, très vite, à partir de la fin de l'année 63, on a donc des rébellions qui s'éclatent. Il y a d'abord la rébellion au centre, au Kwango Kwilo, par Mulele, une rébellion qui est très vite confinée dans un triangle assez petit. Mais un peu plus tard, il y a donc une très grande rébellion qui éclate à l'est du pays. Et dans un laps de temps extrêmement court, en fait, dans 2 mois, plus ou moins, les rebelles, ils réussissent à contrôler presque la moitié du territoire du pays, en fait, sans combattre, parce qu'en fait, ce sont les troupes de l'armée congolaise, les troupes de Mobutu, qui s'enfuient devant les Simba. Ils croient que les Simba sont invulnérables. Et quand on voit donc les rapports de la CIA, ils sont très clairs dedans. Ils disent, en fait, les rebelles, ils sont aspirés dans le vide. C'est ça ce qui s'est produit. Et donc, à ce moment-là, la Belgique, les États-Unis étaient donc confrontés à une situation extrêmement dangereuse. Surtout après la prise de Stanleyville, l'actuel Kisangani, on avait peur que les rebelles allaient avancer vers la capitale, ou bien, ce qui était aussi possible, c'était qu'il y avait une ou plusieurs pays africains allaient reconnaître diplomatiquement le régime des Simba installé à Kisangani comme le représentant légal du peuple congolais. Alors, on aurait un très grand problème et c'est donc contre ça qu'on a réagi.
Alors, il y a donc cette, on va dire, révolution, mais dont les racines sociologiques sont très problématiques, dont l'orientation idéologique est aussi très problématique, mais qui est perçue quand même par beaucoup comme une révolution dans le contexte des années 1960. Ludo de Vit, dans votre livre, vous développez des passages extrêmement intéressants sur les rapports entre Cuba, castriste, et ce qu'on perçoit comme une révolution qui aurait pu faire basculer l'équilibre des forces sur le continent africain et peut-être un peu sur l'ordre mondial.
En 64, donc début 64, en plein accord avec la direction cubaine et avec Fidel Castro, on décide d'envoyer une mission internationaliste au Congo, pas seulement pour venger ce qui s'est passé avec Lumumba, mais parce que les Cubains ont fait le calcul qui est exact que cette bataille entre les Simba et l'Occident était une bataille stratégique avec des conséquences continentales. En quelque sorte, la future immédiate du continent était jouée à ce moment-là,
au Congo.
Et donc, on a décidé d'envoyer donc une mission internationaliste. Guevara est arrivé avec plus ou moins 120 internationalistes, des volontaires, à l'est du pays, où il y avait encore des poches de rebelles. Ils ont essayé de revitaliser la rébellion. Le seul problème pour les Cubains était que la colonne vertébrale de la rébellion était déjà brisée en 64 et début 65 avec l'offensive terrestre qui a été emmenée par des officiers belges et avec comme fer de lance des mercenaires et avec les bombardements successifs et notamment aussi avec le lâchage des paracommandos sur Stanleyville le 24 novembre 64. Donc cette opération a été un échec. C'est comme ça que Guevara le dit aussi dans son journal. Il parle d'un fracasso en espagnol. Mais néanmoins, cette expérience, et surtout le fait que quelqu'un comme le commandant Guevara était impliqué dans l'affaire, a inspiré le Cuba dans les années et dans les décennies suivantes pour continuer sur ce chemin et encore pour développer leur aide matériel, civil, mais aussi militaire, à des mouvements de libération. Si vous me permettez, je vais citer ce que disait l'ancien président tanzanien Julius Nyerere à ce sujet, quand il était ex-président, c'était en 90. Il dit « Mon pays est l'un des nombreux pays du Sud qui ont profité des services des médecins, experts agricoles et enseignants cubains, et de la grande quantité de bourses qui ont été mises à la disposition de nos étudiants, de sorte qu'ils ont pu étudier dans des institutions d'enseignement cubaines. Je n'ai retrouvé Cuba sur aucune liste de donateurs, mais ce pays occupe une place particulière dans les cœurs et les esprits de centaines de milliers, des millions de gens d'Afrique et d'Amérique latine.
Merci à vous, Ludo de Vit, pour ce premier entretien sur votre livre. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, émission réalisée par Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.